Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monsieur Médard Mbuyal Mangala, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Bonjour Médard Mbuyal Mangala.
Bonjour Guy Maté.
Madame Gertrude Biaya Ndaya, elle est fondatrice du Centre Féminin de Formation et d'Information pour le Développement CFID en sigle. C'est une ONG pour la promotion des droits de la femme basée à Mbujimayi au Kasaï Oriental. Elle est aussi présidente provinciale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en sigle. Bonjour Madame Gertrude Biaya Ndaya.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de cette sur l'actualité.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. Médard Mbuyal Mangala, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Madame Gertrude Biaya Ndaya, elle est fondatrice du Centre Féminin de Formation et d'Information pour le Développement CFID. C'est une ONG pour la promotion des droits de la femme basée à Mbujimayi au Kasaï Oriental. Elle est aussi présidente provinciale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Au menu de cette émission, retrait du M23 de certaines entités et déploiement des troupes de l'EAC, la persistance des massacres des civils dans Beni et à Nitouri malgré les opérations conjointes FRDC et UPDF et signature de la charte de l'Union sacrée de la nation. Mais nous allons commencer par un commentaire sur la journée internationale des enfants des rues. En effet, le monde a célébré le mercredi 12 avril dernier la journée internationale des enfants des rues, une façon de reconnaître la force et la résilience des millions d'enfants des rues dans le monde. Si à Kinshasa, ces enfants abandonnés pour la plupart à leur triste sort sont obligés de vivre dans la rue avec toutes les conséquences que cela entraîne, dans les provinces où sévissent des conflits armés, la majorité de ces enfants disent se retrouver dans la rue après avoir fui leur village à cause des attaques des groupes armés, notamment les EDF, Codeco et les différentes factions Mai Mai. Ils passent des journées à sillonner dans les rues pour mendier ou à la recherche des petits travaux domestiques. Monsieur Médard Mbuyal Mangala, journée internationale des enfants des rues, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bon, c'est une interpellation de chacun de nous, l'interpellation des dirigeants au niveau national, au niveau provincial, au niveau local et même au niveau international, parce que c'est un phénomène qui est devenu mondial. En fait, les enfants des rues, on dirait que ce sont nos propres enfants, ce sont nos compatriotes. Et donc, nous ne devons pas apprendre à être si indifférents de ce qui leur arrive. C'est-à-dire c'est une autre partie de nous-mêmes qui se retrouve à travers la rue. Et lorsqu'on rencontre les enfants qui sont dans la rue, quelque part, on se sent, comme je l'ai dit, interpellé parce que c'est le regard, la souffrance, la misère des autres. Donc, si on n'a jamais souffert dans la vie, mais lorsqu'on observe les enfants dans la rue, on se dit, d'une manière ou d'une autre, cette misère nous concerne. Voilà un peu le premier moment d'analyse qu'il faille présenter sur cette question-là.
Merci, Madame Gertrude Biaya Ndaya. À l'occasion de cette journée, Monsieur Jean-Bernard Boulaboula, fondateur de l'Orphelinat C'est mon cœur ici à Kinshasa que nous avons réussi ici à la Radio Kapi à affirmer que ces enfants doivent bénéficier de l'attention des pouvoirs publics. Vous êtes maman. Et quand vous voyez les autorités politiques, les décideurs en train de circuler, n'est-ce pas, sur les artères où ces enfants passent tous leurs séjours en train de mendier sans que cela n'attire l'attention de ces autorités, qu'est-ce que cela vous fait en tant que maman?
En tant que maman, je suis parent et la route n'a jamais mis au monde. Ces enfants, ce sont mes enfants et nous avons des responsabilités vis-à-vis d'eux. Aussi bien les dirigeants, donc au niveau le plus élevé, donc les dirigeants ont des responsabilités. Nous, en tant que parents, nous avons des responsabilités. Toute la communauté a des responsabilités pour donner quand même une vie assez convenable à ses enfants. Mais le fait que les autorités passent sur la route et voient ces phénomènes, ne réagissent pas, c'est quand même, on dirait, un manque de responsabilité. Parce que ces enfants, en définitive, ils deviennent des bandits, parce que là, sur la roue, c'est la loi du plus fort. Donc, ce sont des enfants qui sont laissés à leur triste sort. Ils deviennent des bandits. Et comme ils deviennent des bandits, ils sont en train de semer l'insécurité et la terreur dans les communautés. Donc, en définitive, c'est toute la société qui va en pâtir. Il y a donc lieu que les responsables prennent connaissance et prennent des mesures pour encadrer ces enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas une bombe pour la société à venir. Si on ne les encadre pas, c'est nous tous qui allons subir les conséquences néfastes du fait qu'on ne s'occupe pas d'eux et qu'ils sont pratiquement laissés à leur triste sort.
Merci, Monsieur Louis Magloire Kemayou. Ce phénomène d'enfants dits de la rue est beaucoup plus constaté dans les pays en voie de développement. Et au-delà de la précarité qui caractérise, n'est-ce pas, les familles, précarité qui est souvent considérée comme étant facteur causal de ces phénomènes, le déficit de la volonté politique dans ces pays ne peut-il pas aussi expliquer la persistance de ces phénomènes?
Je pense qu'il y a deux niveaux de lecture devant ce phénomène. Le premier, c'est la responsabilité des parents. Quand un enfant est désiré et qu'il vient au monde, le devoir des parents, c'est d'accorder aux enfants un maximum d'attention et un maximum d'assistance pour qu'ils grandissent normalement et s'intègrent normalement dans la société qui est la leur. Quand ils faillissent à cette mission, le seul matelas de secours qui reste, c'est l'État, c'est le gouvernement, ce sont les autorités publiques. Et si à ce niveau aussi les autorités publiques ne prennent pas leurs responsabilités, les enfants sont en définitive abandonnés à eux-mêmes. Et on peut les traiter de bandits, on peut les traiter de sorciers, on peut les traiter de tous les noms qu'on veut. Le fait est que les premières victimes de cette situation, ce sont les enfants des rues eux-mêmes. Parce que d'une part, ils n'auront pas droit à une enfance normale comme tous les autres enfants, mais en plus, ils grandiront dans un environnement de violence, un environnement par moment de drogue, un environnement qui n'est pas celui dans lequel doit évoluer un enfant pour avoir une croissance normale et une intégration digne de ce nom au sein de la société. Et c'est pourquoi je crois que le devoir des parents est de s'assurer que quand ils ont un projet d'enfance, un projet d'avoir un enfant, le minimum c'est d'assurer à cet enfant ce qui lui est nécessaire pour grandir en tant qu'enfant et suivre le cycle normal de son évolution, devenir adolescent, devenir adulte, et à chacun de ces cycles-là, vivre ce que cette étape de sa vie lui apporte, ce qu'il mérite de vivre pendant cette étape de sa vie. Or, ces enfants sont privés et d'enfance et d'adolescence, et je crois que quelque part, si nos autorités politiques peuvent expliquer qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'accompagner, il y a aussi les autorités internationales par moment qui devraient aider les pays. Comme on fait des droits de tirage spéciaux à l'occasion du Covid, accorder aux pays les moyens d'avoir ces droits de tirage spéciaux pour assister les enfants des rues afin qu'ils ne soient pas abandonnés à leur propre sort, qu'ils ne soient pas abandonnés aux affres de la société et qu'ils aient droit à une vie d'enfant, à une vie d'adolescent avant d'entrer dans la vie active d'adulte. Or, la plupart d'entre eux brûlent toutes ces deux étapes-là, et de l'enfance et de l'adolescence, pour se prendre en charge et par moment prendre en charge leur famille. Donc je pense que la responsabilité est d'abord celle des parents, mais elle est aussi celle de la société dans laquelle naissent ces enfants, et en in fine, elle est celle de la communauté internationale qui devrait par moment, quand on sait que nos pays ne sont pas toujours capables de remplir leurs devoirs régaliens, venir au secours de ces pays-là pour leur permettre d'avoir les ressources financières, matérielles et humaines pour gérer ce type de détresse-là qui ne devrait plus être aujourd'hui monnaie courante comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, en RDC, au Cameroun ou ailleurs sur le continent africain.
Merci, M. Médard Mbouyal Mangala. Est-il difficile de sauver ces enfants? Est-il difficile de mettre en place des politiques capables, n'est-ce pas, de permettre à ces enfants de retrouver une vie normale comme tous les enfants, et retrouver un cadre de vie familiale? Est-ce qu'il est difficile de faire cela?
Non, ça relève du domaine de la possibilité. Il est bien possible qu'à travers des politiques publiques cohérentes, qu'on parvienne à trouver des réponses aux grandes questions qui se posent à notre société, notamment la question qui concerne les enfants, parce que, en considérant que les enfants sont les acteurs de développement pour le pays de demain, on ne peut devenir acteur de développement que si l'on a été préparé. Or, les enfants qui sont abandonnés à leur propre sort deviennent à la fois un danger, mais aussi des irresponsables parce qu'ils ne sont bons à rien. Et donc, c'est possible, comme autant on veut résoudre telle ou telle équation, il est bien possible qu'il y ait des politiques publiques assez cohérentes, assez bien pensées, pour pouvoir se préoccuper de ces questions et trouver des réponses. Il y a lieu de trouver des réponses. Vous l'avez constaté depuis un certain temps, que des gens qui ont été attrapés ici dans la ville de Kinshasa, comme de Kuluna, mais puisqu'il existe des politiques publiques, ces gens-là sont envoyés à Kanyamaka, c'est le centre de rééducation, le centre d'apprentissage des métiers, et ces jeunes gens, appelés à Kinshasa, Kuluna ou Fazer, mais dès qu'ils arrivent à Kanyamaka, dès qu'ils acceptent de se laisser encadrer, ils deviennent des bâtisseurs. Donc, voyez-vous comment justement les choses peuvent se changer. Un homme bon à rien, parce qu'il a été bien encadré, il devient bâtisseur, et on sait le voir aujourd'hui dans le Kasaï, à Kananga, au Kasaï oriental, à Mbujimayi. Il y a un certain nombre de travaux qui sont faits, notamment la construction des écoles, et même des travaux de plantation. Donc, ils sont là, donc parce qu'ils ont bénéficié de l'encadrement. Et donc, je vais me répéter, il suffit de croire, il suffit de réfléchir, il suffit d'asseoir des stratégies cohérentes, et donc, la question là, on risque d'en parler au passé.
Merci. On prend une petite pause avec École, une chanson de Sarah Lula, et on revient tout de suite après.
Simba, tu es un enfant adoré. Évite trop des dodos, lève-toi tôt. Prends ton sac à dos. C'est l'heure d'aller à l'école.
Hey, oh, cette année, je vais revenir à maman.
Applique-toi bien, je t'assure qu'il y aura des cadeaux.
Sarah Lula, de son vrai nom, Ngalula Ngalamulume. Sarah, c'est une compositrice et chanteuse de Rutuashi, un style qu'elle a créé en mélangeant la rumba, la musique traditionnelle du Grand Kasaï et des sonorités urbaines. Consciente que l'éducation est la base dans la vie d'un enfant, Sarah Lula encourage les enfants à bien s'adapter à l'école dans ce titre que nous venons d'écouter, École. On revient à l'actualité de cette semaine, retrait du M23 et déploiement des troupes de l'EAC. Des barrières illégales, des perceptions des taxes sont levées sur certains axes routiers du territoire des Massissi après le retrait du M23, a affirmé mardi 11 avril des voyageurs. Certains ont rapporté être passés sans difficulté sous escorte de la force de l'EAC au niveau des Kiloliwe, où les rebelles du M23 tenaient une des barrières. Sur l'axe Sake-Kichanga, territoire des Massissi, la force régionale de l'EAC dit avoir supprimé les barrières où les rebelles ont retiré les deux derniers jours toutes leurs positions. Entre-temps, jeudi dernier, il y a eu tête-à-tête à Kinshasa entre le président de la RDC et son homologue suisse Alain Berset. Au menu, les relations bilatérales et la situation dans l'est du pays. Au sujet de la mission de la force régionale de l'EAC en RDC, Félix Tshisekedi a précisé que tout est mis en œuvre pour accélérer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des rebelles du M23 qui prouveront leur nationalité congolaise. Ainsi fait, la force de l'EAC n'aura plus de raison d'être. Il a indiqué qu'il n'est pas question d'un dialogue politique avec des agresseurs qui favorisent l'infiltration étrangère à tous les niveaux du pays. Madame Gertrude Biaya Ndaya, vous êtes fondatrice du Centre féminin des formations et d'informations pour le développement CFIDE en sigle. C'est une ONG pour la promotion des droits de la femme basée en Mbujima et au Kasaï oriental. Vous êtes aussi présidente provinciale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en sigle. Vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
D'abord, je suis une femme. Je suis membre de la société civile. Je suis défendrice des droits de l'homme. Je suis militante pour la promotion des droits de la femme. Et je me sens interpellée par ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays depuis près de 30 ans. Cette situation de guerre et d'insécurité a des conséquences, notamment sur les femmes. Les femmes sont victimes de toutes sortes de violences. Et cela nous interpelle. Parce qu'aussi longtemps que cette guerre durera, aussi longtemps que cette insécurité durera, donc le nombre de femmes qui sont violées, le nombre de femmes qui sont réduites en esclavage sexuel, des femmes qui sont traumatisées, ce nombre ne fera qu'augmenter et ça nous inquiète. Les statistiques qui ont été présentées depuis 2007, janvier 2007, par Afrique Renouveau, qui est la principale publication de la section africaine du département de l'information des Nations Unies, montrent que depuis 2007, l'Est du pays a connu plus de 3 millions de morts, plus de 2,5 millions de personnes qui sont déplacées. Il y a aussi la RTBF et la BBC en 2011 qui ont présenté les chiffres de 1152 femmes qui sont violées par jour en RDC, ce qui revaudrait à 48 femmes qui sont violées par heure. Et plus de 400 000 femmes sont violées pendant une période d'une année. Tout ça, ça doit nous interpeller. C'est pour ça que je choisis justement ce sujet, parce que aussi longtemps que durera la guerre, le nombre ne fera qu'augmenter.
C'est quoi votre analyse de cette déclaration du chef de l'État au sujet du M23? Il n'est pas question d'un dialogue politique avec le M23. Comment vous analysez cette déclaration?
Absolument. Parce que nous avons déjà vécu les situations. Ce n'est pas la première fois qu'on va demander au gouvernement de dialoguer avec les rebelles. Ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Comme résultat, entre autres, il y a eu l'infiltration du pays par des étrangers
à tous les niveaux. Il y a eu l'affaiblissement de notre armée et cela a rendu notre armée de ne pas être en mesure de mettre fin à cette agression. Donc l'intégration ne fera encore que fragiliser davantage la République. Et je trouve que le chef de l'État a raison de prendre ces décisions-là. D'ailleurs, c'est la même décision, c'est le même avis qui est dans le chef de beaucoup de Congolais. C'est une décision aussi qui a été prise au niveau du Parlement de ne plus accepter l'intégration, les brassages et tout ça parce que le pays n'en tire pas profit. Donc je trouve que le président a raison et il doit rester vraiment ferme sur cette décision-là. Si on prétend que les rebelles du M23 sont des Congolais, en tant que rebelles, ils doivent accepter le programme de démobilisation, désarmement et doivent être réinsérés dans la vie civile. Il ne faut pas qu'ils réclament à ce qu'on les réintègre dans l'armée.
Merci.
Parce que ça, ça a donné comme résultat que nous nous retrouvons dans l'armée avec des officiers supérieurs qui n'ont pas un cursus militaire, qui n'ont jamais été formés, et tout simplement parce qu'ils étaient rebelles, ils sont parachutés comme ça avec des galons, et en définitive, ils ne savent même pas comment organiser la défense du pays.
Merci.
Au fond, c'était des infiltrés.
Merci, M. Médard Mouyal Mangala, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Quelle est votre lecture par rapport à cette problématique du retrait du M23 et du déploiement des forces de l'EAC?
Nous sommes dans un processus qui est en train de réaliser des petits pas, si vous voulez, parce que imaginez-vous, jusqu'hier, quelle n'était pas l'inquiétude des Congolais de voir les militaires, les troupes de l'EAC intervenir sur le territoire national avec beaucoup de doutes parce qu'en fait, dans la tête du Congolais, l'EAC était l'équivalent du M23 et sans le dire, ou d'autres l'ont dit d'une certaine manière, qu'on soit arrivé sur le plan diplomatique à obtenir ce qu'on vient d'obtenir, c'est déjà des petits pas, mais il faut consolider ces pas de manière qu'on ne revienne plus en arrière parce qu'on connaît le passé. Mais aujourd'hui, quand le Congolais est en train de parler de la question de la guerre, on se bat sur une expérience qui date de plus ou moins 20 ans. Et donc, c'est à peu près près de 20 ans que la République démocratique du Congo est en guerre. Et donc, la guerre n'a jamais pris fin. Et donc, quand le Congolais parle de l'EAC de cette manière, parce qu'on se souvient des stratégies ou des initiatives qui n'ont pas marché, alors on aimerait avoir suffisamment de garanties que cette fois-ci, ça sera la bonne.
Merci, Monsieur Louis Magloire Kemayou. Vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Réagissant au refus du chef de l'État de négocier avec le M23, le porte-parole de cette rébellion a affirmé ce matin dans certains médias qu'il n'y aura ni démobilisation ni cantonnement s'il n'y a pas de négociation avec le gouvernement congolais. Louis Magloire Kemayou, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette réaction du M23?
Je crois que nous sommes dans un dialogue de sourds, parce que quand on en arrive à un stade où les positions sont aussi tranchées, aussi bien de la part du gouvernement que de la part d'une partie de la population ou d'un mouvement sécessionniste comme celui du M23, ce n'est jamais de bon augure parce que celui qui est le plus grand perdant dans cette opération, c'est la population qui est prise en otage entre les différents conflits d'intérêts qu'il y a entre le gouvernement et les groupes rebelles. Pour moi, il ne s'agit pas uniquement de dire le M23 équivaut au Rwanda et donc ce sont des forces étrangères et la loyauté, c'est de dire que le gouvernement ne doit pas traiter avec des forces qui ont pris les armes contre le pays. Parce que dans les faits, c'est normal de raisonner ainsi. Ce n'est pas parce qu'on prend une arme qu'on devient un interlocuteur valable pour un gouvernement. Cela n'est pas la réalité et cela ne devrait pas être la réalité, que l'on soit au Congo, que l'on soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. Mais à côté de ça, nous avons un pays, la République démocratique du Congo, qui subit depuis plus de 30 ans aujourd'hui, les dommages collatéraux du génocide qui s'est produit contre les Tutsis au Rwanda. Et de l'autre côté, vous avez également les autorités rwandaises qui estiment qu'une partie des génocidaires qui a été exfiltrée via la RDC et qui se trouve justement à l'est de la RDC constitue une menace pour la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda. Comment on fait pour que les intérêts de la RDC, les intérêts du Rwanda soient atteints et que la paix dans la région soit garantie? Ce n'est pas en tranchant en faveur de l'un des pays, c'est pas non plus en niant aux citoyens leur croix qu'on arrivera à résoudre le problème. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de l'image qu'on a du M23, qui est un mouvement, et plusieurs rapports des Nations Unies l'ont dit, qui est un mouvement soutenu par le Rwanda et qui a des moyens militaires beaucoup plus importants que la République démocratique du Congo et les forces des Nations Unies qui ont été déployées sur place. Rappelons quand même qu'il s'agit de la plus grosse mission des Nations Unies jamais déployée dans l'histoire. Comment on fait pour que dans ce cocktail-là, pendant 30 ans, on ne trouve pas de solution? Je pense que le fait de raisonner uniquement par rapport au M23 vassal du Rwanda fait partie des problèmes qui font qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Et donc, il faut qu'on ait un vrai débat qui permettent de dire que l'insécurité n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, c'est de l'insécurité pour les uns et pour les autres, et qu'il faut trouver une solution conjointe qui permette aux uns et aux autres de se dire que la paix à l'est de la RDC n'est pas en défaveur du Rwanda, et que la paix au Rwanda n'est pas en défaveur de la RDC. Et donc pour moi, pour ne pas arriver à la situation que vivent aujourd'hui la Russie et l'Ukraine, il faudrait que les frères du Rwanda et de la RDC arrivent à trouver un dénominateur commun dans la lutte contre les forces rebelles et militaires qui aujourd'hui sèment l'insécurité à la frontière de la RDC, mais aussi représentent une menace pour la sécurité du Rwanda.
Merci, Monsieur Médard Mouyal Mangala. Le chef de l'État a réitéré sa position qui est connue, celle de ne pas négocier avec le M23. Et à votre avis, comment peut-il harmoniser sa position ainsi que celle de la communauté internationale, aussi de l'Union africaine, qui les pousse depuis un certain moment vers les négociations avec ces mouvements rebelles?
Celui qui prend la parole est le président de la République démocratique du Congo. À la tête du pays, il dispose suffisamment des données qui lui permettent de prendre des positions telles qu'il les a prises. Bon, on comprend qu'au niveau de la diplomatie internationale, qu'on ait d'autres éléments de repère qui ne reflètent pas forcément la réalité. Souvenez-vous, lors de son passage ici à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron a dit « Depuis 20 ans, vous êtes incapable d'organiser la sécurité de votre propre pays. » Mais ce que Macron n'a pas été capable de dire, que ce sont des Français qui ont organisé l'opération turquoise qui a permis au régime Hutu de quitter le Rwanda avec armes et bagages pour s'installer sur le territoire zaïrois à l'époque. Ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que c'est la communauté internationale qui a poussé le maréchal Mobutu à chasser, lors d'un sommet en Égypte, son ministre des Affaires étrangères, Maître Gérard Kamandawa Kamanda, parce qu'il tenait à l'option qu'il fallait garder l'armée rwandaise là où elle était, sur le territoire congolais, à quelques kilomètres de la frontière. Souvenez-vous, toujours nous sommes en 1995, le gouvernement congolais, à l'époque Kengo Premier ministre, le gouvernement avait pris des dispositions pour ramener l'armée rwandaise, ou les institutions rwandaises qui s'étaient installées sur le territoire congolais dans les conditions. Mais c'est plutôt la communauté internationale qui n'a pas facilité. Et dès lors aujourd'hui, lorsque le président de la République prend la parole, il tient compte de tous ces éléments, à quel moment la communauté internationale qui a poussé le Zaïre à accueillir l'armée rwandaise et les institutions rwandaises sur le territoire congolais, cette même communauté internationale s'est retournée contre notre propre pays. Et donc, il ne suffit pas de dire, et la communauté internationale a dit oui. On sait que c'est de la communauté internationale, c'est à la fois tout le monde et personne. Il en est de même au niveau de l'Union africaine. L'expérience congolaise dans le contexte actuel tient compte de tous les éléments accumulés, de tous les comportements accumulés par des acteurs à la fois au niveau régional et au niveau sous-régional et même au niveau international.
Merci.
Et donc le président a les données qui lui permettent d'avoir des positions tranchées parce que les 20 dernières années ont été les années où le pays a été tourné à dérision et la communauté internationale a assisté aux spectateurs de ce qui s'est passé et de ce qui se passe dans notre pays.
Merci. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter Je te jure, et cette nouveauté de Cindy Le Coeur de l'orchestre quartier latin de Koffi Olomide. Et on revient après.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bon. Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la journée internationale des enfants des rues. Nous avons également analysé la problématique du retrait du M23 et du déploiement des forces de l'EAC. Participe à cette émission, M. Médard Mbouyal Mangala, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise de RTNC en sigle, Mme Gertrude Biayandaya, elle est fondatrice du Centre Féminin des Formations et d'Informations pour le Développement CFID en sigle, une ONG pour la promotion des droits de la femme basée en Mbujimayi au Kasaï oriental. Elle est aussi présidente provinciale du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CARFO en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Pemayou, journaliste camerounais. Il est écrivain et président du club de l'information africaine. Des ossements humains d'une cinquantaine de personnes ont été découverts jeudi 6 avril et vendredi 7 avril à Ntoma, dans le groupement des Malambo, territoire de Beni, au Nord Kivu. Edgar Matesso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, affirme que cette découverte macabre a été faite par des cultivateurs. Les victimes seraient des otages des EDF exécutés entre 2021 et 2022. Il précise qu'entre le 1er mai et ce samedi 15 avril, ce sont plus de 200 civils qui ont trouvé la mort dans les différentes attaques des EDF à Beni et à Ituri. Pendant ce temps, il a été noté des avancées significatives dans les opérations menées conjointement par les armées ougandaises UPDF et congolaises FRDC contre les rebelles des EDF en dépit de la résistance de certains groupes rebelles dans certaines localités. C'est ce qu'a indiqué le communiqué final de la réunion d'évaluation de ces opérations présidée jeudi 6 avril à Beni par les chefs d'état-major généraux des deux armées. Ces opérations avaient été lancées le 30 novembre 2021 dans les territoires de Beni au Nord Kivu et d'Irumu à Ituri pour neutraliser les EDF. Louis Magloire Kemayou, qu'est-ce qui motive le choix de ces sujets?
Je crois qu'il est important de dire que la situation sécuritaire de la RDC est catastrophique. Ça fait 30 ans aujourd'hui que nous sommes dans ce schéma où les frontières à l'est de la RDC ont été abandonnées. Le renversement de Mobutu a été fait au prix de l'abandon de la souveraineté au niveau des frontières, aussi bien avec l'Ouganda, avec le Rwanda ou le Burundi. Et je crois que tant qu'on n'aura pas résolu cette équation de dire que l'État doit redevenir souverain à ses frontières, c'est-à-dire qu'il n'est pas souverain qu'à Kinshasa, il doit être souverain à Kinshasa et au-delà, y compris aux frontières les plus éloignées du pays. Tant qu'il n'a pas résolu cette équation, l'insécurité restera le quotidien, malheureusement, des populations. Et je pense que la focalisation qui a été faite sur le M23 et sur le Rwanda n'a pas permis par moment de développer tous les réflexes sécuritaires qu'il fallait pour rendre étanches les frontières de la RDC par rapport à toutes les agressions venues de l'extérieur, notamment celles en provenance de l'Ouganda ou du Soudan. Et aujourd'hui, nous constatons que, au-delà des frontières liées au Rwanda et au Burundi, il y a également une insécurité liée au terrorisme islamiste et qui n'a rien à voir pour le coup avec le Rwanda et qui mérite que l'on fasse un package aujourd'hui pour ne pas résoudre la question de l'Est que par rapport au Kivu, mais également par rapport à l'Ituri, par rapport à Beni, par rapport à toutes les autres villes qui sont aujourd'hui martyrs du fait que les forces de défense et de sécurité ne peuvent plus exercer leur mandat sur ces territoires-là. Donc, pour moi, je ne veux pas dire que c'est un mal pour un bien, mais le fait est que la résurgence des mouvements terroristes dans cette partie du territoire du pays montre que la résolution de l'insécurité aux frontières de la RDC ne se limite pas à la réduction du M23, de la réduction de la capacité de nuisance du M23. Il s'agit de façon générale de réfléchir à toute la sécurité de la RDC à ses frontières où il n'y a pas que des pays stables. il y a la République centrafricaine aujourd'hui qui ne représente pas une menace, mais qui pourrait en présenter une si jamais le mouvement Wagner et les différents mouvements religieux qui opèrent sur le territoire venaient à déborder en traversant l'Ubangi pour se retrouver en RDC. C'est la même chose avec l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda. C'est la même chose avec tous les autres mouvements islamistes qui pullulent aujourd'hui dans cette région. Et donc, pour moi, il est question d'envisager la question de la sécurité de la RDC de façon beaucoup plus globale que la question de l'anéantissement du M23 et de la mise hors d'état de nuire du Rwanda.
Oui, on a vu Barkhane, cette opération militaire menée au Sahel et au Sahara par l'armée française avec l'aide d'armées alliées, donc les pays concernés, n'est-ce pas, par la menace djihadiste. Cette opération qui visait à lutter contre les groupes armés salafistes et djihadistes dans toute la région du Sahel. Là, ce sont des forces armées qui coalisent, mais cette coalition n'a pas suffi pour anéantir totalement les factions terroristes qui opèrent dans cet espace géographique. D'ailleurs, la menace s'étend à d'autres zones. On voit comment, ici, chez nous aussi, ce n'est pas facile pour la coalition IPDF-FRDC de mettre fin à l'activisme des ZDF. À votre avis, quels pourraient être les moyens les plus efficaces pour anéantir totalement ce type de menaces?
Je crois que dans un premier temps, la RDC doit être capable d'être maîtresse de ses frontières. C'est-à-dire de dire, sur ce terrain, le patron, c'est moi. Et pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas de patron aux frontières de la RDC. Ça, c'est un problème. Le deuxième fait est que aujourd'hui, on a la force d'intervention des États de l'Afrique de l'Est. Mais pour que cette force intervienne, il faut qu'il y ait un minimum de concertation et surtout, il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre les différentes parties prenantes. Si on a une force d'intervention des forces d'État de l'Afrique de l'Est, mais que l'on ne fait pas confiance au Rwanda, ou que le Kenya est soupçonné d'être en connivence, ou que la Tanzanie n'est pas considérée comme un partenaire fiable, cela pose un vrai problème de confiance entre les partenaires, et donc il y a une fissure dans l'immeuble qui peut le faire tomber. Il faut que la RDC, dans un premier temps, joue pleinement son rôle et assume sa souveraineté sur son territoire, mais qu'à côté de ça, il y ait une coopération franche et sincère entre les forces de défense et de sécurité, voire les services secrets des différents pays, pour que le combat soit commun et que les intérêts visés soient convergents. Si tel n'est pas le cas, je crains malheureusement que, malgré ces 30 années de désastres humains qui ont été subis, l'on aille vers d'autres années encore plus difficiles, qui seraient marquées par le fait que l'État congolais est impuissant, qui avait déjà essayé le 1+4 pour intégrer les rebelles, et que les voisins aussi ne soient pas capables d'apporter une solution à la RDC pour régler ce problème-là, et que ça devienne un problème au-delà des frontières de la RDC, un problème régional.
Merci, Madame Gertrude Biayandaya. Comment vous comprenez la persistance des tueries des civils dans Beni et Anituri, malgré les opérations conjointes FRDC-UPDF?
Je pense que la RDC a un grand défi à relever, c'est celui d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de la République. Mais il se fait que, pour le moment, la RDC est obligée de recourir à une force régionale en qui elle a confiance pour l'aider à régler cette situation-là. Moi, je pense que il est bon que la population soit impliquée aussi dans la recherche de la sécurité. Et c'est cette collaboration, au fond, qui a amené à ce qu'on puisse découvrir ces tueries. Et je félicite la vigilance de la société civile parce que elle ne cesse chaque fois de tirer la sonnette d'alarme quand elle voit qu'il y a des mouvements suspects. Et la population est en train d'aider pour qu'on puisse découvrir ces tueries. Et le fait que la population donne son avis, elle est un peu dubitative par rapport à l'intervention de la force sous-régionale. Elle craint que cette force ne puisse jouer le même rôle que la MONUSCO. Parce que à un moment, la population a été convaincu que la MONUSCO
ne joue vraiment pas son rôle. Donc, il faudrait qu'on puisse aussi voir avec les pays voisins. Vous savez, quand nous avons eu des problèmes, en 2001, nous avons été obligés de faire le dialogue intercongolais pour mettre fin à la guerre qui avait subdivisé le territoire en trois territoires administratifs, en trois administrations différentes. Mais le voisin rwandais qui accuse la RDC de pouvoir protéger, d'abriter l'armée des FDLR. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda ne pourrait pas aussi organiser un dialogue avec les opposants de façon à ramener le calme au Rwanda, la paix au Rwanda et la paix en RDC? Évidemment, nous savons que cette guerre de l'Est, cette insécurité, au fond, c'est une guerre économique dans la recherche de l'obtention, de l'exploitation illicite des minerais de la RDC. Et le président de la République avait, tout au début de son mandat-là, cherché à parler, dialoguer avec ses voisins pour qu'il puisse y avoir des partenariats qui permettent à ce que les uns et les autres puissent bénéficier de ces richesses, mais d'une façon honnête et équitable, hein, de façon à ce que les uns et les autres puissent trouver leur intérêt. Mais malheureusement, sur le plan diplomatique, il s'est buté à des compréhensions des autres États qui ont persisté. Et c'est ça, je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça et qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, si la diplomatie n'a pas réussi, il faut chercher d'autres moyens. Et c'est ainsi que nous avons les moyens militaires pour que nous puissions quand même arriver à stabiliser l'Est de la République.
Merci, M. Médard Mbouyal-Mangala. La difficulté qu'ont souvent ces armées nationales pour anéantir totalement ces groupes armés ne peut-il pas s'expliquer par le caractère asymétrique de la guerre que ces terroristes imposent aux armées qui, elles, sont formées, n'est-ce pas, pour des combats classiques où on peut localiser géographiquement les positions de l'ennemi?
C'est vrai en partie. C'est le premier élément de réponse au questionnement. Mais on ne saurait se limiter à un si bon chemin. Quand on sait que la faiblesse de notre armée, c'est qu'il y a eu des opérations, on peut dire, le brassage, le mixage, ces éléments ont fragilisé l'armée et les services de renseignement de manière à être opérationnels. Qu'on se souvienne de l'accord signé avec le CNDPM-23, les accords selon lesquels les militaires issus du CNDP, issus du M23, ne pouvaient pas quitter le territoire de l'Est. Et c'est ça le fond de la question. C'est ça l'enjeu de l'insécurité sur le territoire congolais. Parce que quand on est une armée et quand on a été formé comme militaire, on doit servir partout. Or, selon les accords signés avec le CNDP M23, RDF aujourd'hui, selon ces accords-là, ces militaires-là ne pouvaient jamais quitter le territoire de l'Est, ni quitter l'espace du Kivu, ni quitter l'espace de l'Ituri. C'est ça l'élément majeur qui explique le désordre, c'est ça l'élément majeur qui explique la faiblesse de l'armée congolaise à pouvoir avancer. Donc elle s'efforce de mettre de l'ordre dans les rangs, mais au fond, la plupart des militaires retrouvés sur place ont tendance à ne pas obéir à l'ordre qui vient de Kinshasa. Ils n'obéissent qu'à l'ordre qui est de l'autre côté. C'est ça qui explique ce dont nous sommes en train de parler. On peut trouver autant d'explications tant que ces gens sont restés longtemps sur le même lieu et n'obéissent pas au commandement général, ça pose un sérieux problème de sécurité pour le pays.
Merci, on va prendre une petite pause en écoutant Rokia, cette composition de Bella Bello, et on revient tout de suite après. C'était Rokia, c'est classique de Bella Bello. Bella Bello, c'était l'une des grandes voix africaines pendant les décennies 60 et 70. Bella Bello, artiste musicienne togolaise qui disparaît dans un accident de circulation en 1973 alors qu'elle n'avait que 27 ans. Paix à son âme. Je rappelle que cette émission connaît la participation de M. Médard Mouyal Mangala. Il est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Madame Gertrude Biaya-Ndaya, elle est fondatrice du Centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID. C'est une ONG pour la promotion des droits de la femme basée à Mbujima et au Kassai oriental. Elle est aussi présidente provinciale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. L'Union sacrée de la nation s'est dotée d'une charte. Celle-ci a été signée la semaine dernière à Kinshasa par les ténors de cette plateforme politique. Cette charte est appelée à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mboso, Sama Lukonde et Augustin Kabuya composent des présidiums de l'Union sacrée de la nation. Ces derniers sont tous placés sous l'autorité morale de Félix Tshisekedi. Médard Mouyal Mangala, vous avez voulu parler de ce sujet. Pourquoi?
Oui. Journaliste, observateur de la société congolaise ou la société zéro congolaise depuis près de 30 ans, lorsqu'on parle de l'Union sacrée, je dirais mieux, c'est la renaissance ou le retour de l'Union sacrée. Et donc le concept est déjà à lui seul mobilisateur. Pourquoi? Vous vous souviendrez que dans les années 1991, c'est autour de l'Union sacrée, autour de l'UDPS, du PDC et de l'UDI plus tard, qu'on a créé à l'époque l'Union sacrée pour mobiliser les forces politiques et sociales pour obtenir la démocratisation de l'espace politique au Zaïre. Donc, l'Union sacrée à l'époque s'est pointée contre ce qu'on appelait à l'époque les forces du statu quo. Alors, près de 20 ans après, autour de 25 ans après, je dis, c'est le retour de l'histoire. L'histoire est en train de se répéter dans notre pays. Alors, le concept de l'Union sacrée n'est pas ramené par n'importe qui. Le concept de l'Union sacrée est ramené sur le territoire ou sur l'espace national par un acteur majeur. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Pas seulement. Des membres de l'UDPS. Or, qui se souvient certainement de ce qu'a été, dans les années 91, le rôle joué par l'Union sacrée dans la mobilisation de l'opinion publique pour la tenue de la conférence nationale souveraine. Et donc, la question, telle que vous le dites, donc, elle mobilise et ça mérite qu'on en parle. Parce que il y a une sorte de transhumance des acteurs politiques qui sont en train de traverser pratiquement dans tous les camps, mais qui aujourd'hui se mobilise autour de Félix Antoine Tshisekedi. Alors je me dis, ça vaut la peine, il faut rappeler que l'Union sacrée n'est pas née qu'aujourd'hui. C'est le retour ou la renaissance de l'Union sacrée qui nous intéresse.
On constate que dans les présidiums de l'Union sacrée, beaucoup de provinces ne sont pas représentées, notamment l'ex-province orientale, le Nord Kivu, le Congo central. Comment vous expliquez cette façon de faire les choses? Est-ce que ce n'est pas de nature à créer des frustrations?
Bon, il n'y a pas de raison d'aborder les questions en termes de frustration. C'est plutôt le choix politique. Ce choix a été fait au regard d'une autre plateforme, ou ce qu'on a même appelé la méga plateforme, le FCC, qui avait amené tout le monde, et il y avait des plateformes, des partis politiques et des personnalités, mais sur le plan de la gestion du management du FCC, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de couacs. Alors, inspiré justement par cette manière de faire, que Félix Antoine Tshisekedi a été amené à alléger le dispositif, c'est avoir juste ces personnalités au niveau du président, et puis faire intervenir les partis politiques. Donc, dans l'Union sacrée, il n'y a pas de plateforme, il n'y a que les six personnalités identifiées, ainsi que les partis politiques. C'est une manière d'alléger le mécanisme, d'être assez souple et d'être assez cohérent dans la recherche des solutions.
Merci, M. Louis Magloire Kemayou. Une semaine après la signature de cette charte, les ténors de l'opposition se sont retrouvés en concertation à Lubumbashi autour de Moïse Katumbi. Ne sommes-nous pas là en train d'aller vers la constitution des deux blocs, celui de la majorité au pouvoir avec comme candidat Félix-Antoine Tshisekedi et celui de l'opposition avec un candidat commun qui sera peut-être connu prochainement?
Je crains que la constitution de cette union sacrée obéisse exclusivement à des impératifs politiques, pour ne pas dire politiciens, parce que la perspective de l'élection présidentielle n'échappe à personne, et à partir du moment où l'enjeu de la conservation ou l'accès au pouvoir, il ne faudrait pas que l'union sacrée serve uniquement de marchepied aux acteurs politiques pour accéder ou se maintenir au pouvoir. Pour moi, la plus grande crainte, elle est là. C'est qu'il y ait une instrumentalisation de l'union sacrée pour permettre aux uns ou aux autres d'accéder à leur fin politique. Si on arrive à dépouiller l'union sacrée de cette larve-là, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Parce que jusqu'à présent, les calculs politiques ont été le principal moteur de la constitution des alliances. Et j'espère que celle-ci ne s'appuie pas sur le même moteur et ne produira pas les mêmes résultats, parce que jusqu'à présent, tous les calculs politiciens qui ont été faits ont malheureusement été faits en faveur des acteurs politiques et jamais dans le sens des intérêts ni de la population ni de l'État. J'entends par État la nation de la République démocratique du Congo. Donc j'espère que ces acteurs-là ont à cœur le même objectif, la même cible, celle de constituer une nation de la République démocratique du Congo qui n'est pas qu'une Afrique dont la gâchette du pistolet se trouve en RDC, mais un facteur de réunification et surtout un facteur de croissance pour les pays à la fois voisins immédiats et voisins beaucoup plus lointains, pour que l'on ait une République démocratique du Congo qui va accueillir les Jeux de la francophonie, qui est la plus grande capitale de la francophonie sur le continent africain et à l'échelle internationale, mais également un objet de fierté pour tous ces francophones-là du continent africain qui se reconnaissent dans la RDC et dans le Congo, dans Kinshasa et toutes les autres villes constituantes de la République démocratique du Congo.
Merci Madame Gertrude Biaya-Ndaya. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral avec ces différents blocs qui sont en train de se constituer?
Nous assistons d'un côté l'Union sacrée qui s'engage à soutenir la candidature du président de la République pour un deuxième mandat. De l'autre côté, nous voyons le bloc de l'opposition qui est en train de réunir aussi et de mettre en place des stratégies. En ce qui concerne l'Union sacrée, c'est bon qu'ils disent qu'ils se mettent ensemble pour donner un deuxième mandat au président de la République, mais nous nous posons la question, au-delà de ce soutien au président de la République, qu'est-ce qui adviendra après? Quelles sont les autres motivations qui mettent ces hommes politiques ensemble? Ce que nous craignons, c'est que nous puissions encore vivre ce qu'on a toujours vécu. Ça signifie que les politiciens cherchent à se repositionner de façon à ne pas disparaître de la scène publique, mais là c'est pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la population. Alors le souhait pour nos populations serait que l'Union sacrée soit une force qui puisse mettre en place des stratégies qui aboutissent à la recherche du bien-être des populations et non pas pour leurs intérêts propres. Là, vraiment, ce serait une grande déception pour le peuple congolais. Alors, par rapport à la plateforme de l'opposition, bon, moi je vois un peu la répétition de Genève. Hein? On se croirait à Genève 2. Bon, ils sont ensemble, on ne sait pas s'ils vont arriver à vraiment avoir un candidat unique de l'opposition, ou bien si nous n'allons pas vivre la même situation que nous avons vécue lors des élections de 2018.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à M. Médard Mouyal Mangala, à M. Louis Magloire Kemayou et à Mme Gertrude Biaya-Ndaya. Merci aussi à Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation de Def Vita. À la présentation, Guy Maté sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Savoujango et d'Étienne Rougéry. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Evelyne du grand-père Bozi Boziana, sortie en 1989 avec la voix des Jolies d'État, de l'orchestre Antichoc, et on se retrouve le samedi prochain. Thank you.